Bienvenue à la 9e émission de l'émission Passement de Jambes. On retrouve les fidèles, Boris.
Salut, salut.
Bastien qui revient après une semaine d'absence.
Bonsoir.
Et Guilin qui a été reconduit.
Salut tout le monde.
Parce qu'il a été bon la semaine dernière. Et on a des invités de marque aujourd'hui. On a l'équipe de Playground.
Bravo.
On va se présenter un peu.
Bravo. Partie de l'équipe.
Alors on a Benoît.
Voilà, salut.
Pas grand chose à dire de plus.
Playground, tout le monde connaît.
Mais... Oh bah tranquille. Oui, bien sûr. Voilà. Et Clément.
Ok, salut, moi c'est Clem, moi je connais pas grand chose, mais ce que je connais, je le connais très très bien.
C'est pour ça qu'on a ramené Clément aujourd'hui.
C'est déjà un bon début. Alors on va pas faire le point martial maintenant tout de suite, on va attendre de parler du championnat anglais en fin d'émission pour le derby Manchester United contre Manchester City. On va commencer par l'actualité de la semaine, la Ligue des Champions, et les deux représentants français. Rapidement, on commence par Lyon.
Bah, Lyon qui confirme son statut de troisième du groupe. Qui est un peu dans la lignée de ses dernières sorties.
Potentiellement quatrième aussi.
Ouais, enfin, ils sont pas loin, les mecs. Je pense qu'ils cherchent à pas faire de Coupe d'Europe cette année. Enfin, je me demande, en tout cas. Je sais pas. Bastien, il a plein de trucs à dire sur le match de Lyon, parce qu'il a fortement pas kiffé.
Parce qu'il aime beaucoup Jean-Michel Aulas aussi.
Non, mais je pense que tout ça est dû à leur nouveau stade.
Ils se mettent trop la pression.
Les Bad Guns, ils ont dit qu'ils étaient... Jones et les Gerland Boys, ils n'arriveront pas à se retrouver là-dedans. J'ai pas non, vu ce match, c'était pourri.
Ils perdent 3-1 à Saint-Pétersbourg. Après Saint-Pétersbourg, ils ont quand même un peu l'habitude des Coupes d'Europe, etc. Forcément une surprise, non?
Enfin, moi,
Benoît avait quelque chose à dire. Benoît, t'écoutes.
Attends, on parle du Zénith Saint-Pétersbourg. Les mecs, ils ont un Portugais que les Portugais connaissent pas, Dany, on nous fait croire que c'est une star.
Des Belges.
Hulk, bon, bah d'accord, mais en même temps, quand t'es défenseur, Hulk, t'as un truc à faire, c'est monter sur lui pour pas qu'il frappe, et puis c'est ce que
ouais, personne bah, apparemment, fait. Apparemment, Lyon n'a pas compris qu'il fallait faire ça.
Non, justement. Mais c'est nul. La déclaration de là, c'est encore plus nul à la fin. On a joué un des plus grands clubs d'Europe.
Bah, je trouve que le Zénith, ils ont l'expérience. Ça fait longtemps qu'ils font la Coupe d'Europe. Ils ont gagné l'UEFA.
Ça fait combien de huitièmes de finale?
Ah, non, ça d'accord, mais ils ont quand même gagné une Coupe de l'UEFA. À mon avis, ils ont 10 fois plus d'expérience que Lyon à ce niveau-là.
Mais au-delà de ça, moi, je suis d'accord avec Benoît sur le fait que t'as un joueur à marquer quand même.
Ouais.
Enfin, leur stratégie, c'est OK, donner la balle à Hulk. Ça, c'est un peu comme tu regardes la c'est donner la balle à Mark Landers. Le mec tire de 30 mètres et c'est terminé. Il y avait juste un mec à marquer quand même.
Ouais, ouais.
Ah, bah, certes, mais ils l'ont pas fait en tout cas.
Bah, mais c'est ça qui est fou. C'est là que tu dis que Lyon a pas le niveau. Les mecs sont pas prêts pour la Ligue des Champions. Ils ont un 11 qui est trop fragile. Tolisso, Ferry, ça tient pas la route dans Ligue des Champions. Umtiti non plus. Je sais pas, quand t'es défenseur central, tu joues un peu plus haut sur les. Quand Hulk décroche, il faut que les mecs. Je sais pas, Gonalon, tu sors sur lui, j'en sais rien, mais.
Les mecs sont pas au niveau de l'année dernière, surtout. T'as des mecs comme Tolisso, pour moi, l'année dernière, c'était un mec qui explosait cette année.
On en parlait au début, les émissions d'avant, Tolisso, il manque beaucoup.
Et encore, c'est pas le pire de Lyon cette année.
C'est qui le pire?
C'est Ferry, par exemple.
Ferry, il a pas
d'argent. Loin derrière.
Et la Cazette aussi, mais bon.
La Cazette aussi, après voilà, pour moi Lyon paye aussi son recrutement un petit peu nul. Pour moi, tous les joueurs que Lyon a recrutés, c'est en dessous de ce qu'ils avaient déjà. C'est pas la définition d'un recrutement pour moi.
Tu vois, ils ont recruté des doublures en fait.
Voilà.
Mais on en reparlera après parce que Mapu Yangambiwa, il a fait une sortie là et du coup ils ont gagné ce week-end. Alors est-ce que ça a joué? Ça, on pourra en parler. Où il avait dit que Lyon avait le niveau dans rien, Lyon pouvait rien faire ou je sais pas quoi.
Non, mais par exemple, tu vois, là où je rejoins Clément sur Darder. Quand il arrive de Malaga, t'as Aulas qui te le décrit, le meilleur jeune de sa génération. Toute l'Europe se l'arrache. Finalement, le mec, il est moins fort que Tolisso, moins fort que Ferry, je sais pas, parce que cette année, c'est vrai qu'il n'est pas au niveau. Mais en tout cas, il n'est pas au niveau des autres milieux. Et quand on te le présente comme... en tout cas, en Ligue des Champions...
Il a fait un bon match en championnat samedi, mais on verra après sur la Ligue 1.
Toulouse, ils sont derniers presque. Enfin, je sais pas où
ils... Toulouse, ils ont pas le... Bon, on verra après, parce que là, on est en train de...
Non, mais moi, je trouve que c'est à l'image quand même du niveau de Lyon, finalement. Ouais, ouais. En Ligue des Champions, c'est trop léger. Trop léger, et ça se voit. Et c'est limite niveau UEFA. Je sais même pas s'ils vont aller en UEFA. Je sais même pas s'ils auraient le niveau en UEFA.
Et puis, vu leur classement, même en Ligue 1, c'est pas vraiment...
Oui, c'est ça. On dit c'est pas le niveau européen, mais en Ligue 1, c'est pas non plus le top, quoi.
Ils nous font baisser l'indice UEFA.
Mais comme ça, alors que
Guingamp nous l'avait relevé.
Mais remettons Guingamp, voilà.
Remettons Guingamp et dégageons Lyon et remettons Guingamp.
Ouais, on a Claudio Beauvu, c'est un peu pareil. Hein, c'est Guingamp, Lyon, kiff bourrico. Bon, alors après, il y a le match PSG-Real de Madrid qu'on a tous regardé, forcément.
Ouais.
On voulait faire au début une émission un peu spéciale là-dessus, mais.
Ouais, c'était déjà assez
qui a quelque chose à dire je sais pas. Moi, je reste un peu pantois dans ce truc-là.
Je pense qu'on aurait tous des choses à dire, mais c'est plein de frustration surtout. Je sais pas. Enfin, moi, j'en sors en tout cas. hyper déçu. Je m'attendais. On m'a annoncé un choc. Écoute, j'ai vu deux équipes qui se regardaient beaucoup. Il s'est pas passé grand chose. Personne capable du côté de Paris, en tout cas, de prendre le ballon et d'avancer balle au pied. Dans un système comme ça, moi, je comprends pas que Laurent Blanc y mette Matuidi. Tu vois, quand tu sais que le Real il va jouer les contres. Mais pas storé, mais un mec qui transperce un peu, tu vois, je sais pas. Tu vois, après, on peut faire le procès de Cavani encore une fois, le procès d'Ibra encore une fois, ou alors le procès du schéma tactique de Blanc, hein, le 4-3-3 avec Cavani dans un couloir, moi je
commence. Qui bouge jamais,
ouais. Surtout. Ouais, je sais pas, moi tactiquement, j'ai pas senti qu'il y avait un problème, c'est sur l'intensité, je pense qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Du coup, je trouve que ce match était certes hyper frustrant, mais pas inquiétant. Enfin, s'il monte un petit cran dans l'intensité.
Tactiquement, ça fonctionne pas et Laurent Blanc, il est incapable de faire bouger son système tactique. C'est ridicule. On a regardé le même match pendant 90 minutes. On a regardé le même match pendant 90 minutes. Il n'y a aucun moment, il y a une remise en cause tactique. Il fait des mauvais choix sur le papier. Je suis d'accord. Matuidi, pour moi, ça sert à rien. Moi, je l'en veux énorme à Ibra parce que t'écroches tout le temps. On le sait, tous les mauvais attaquants en fin de carrière, quand tu peux plus épiffrer, c'est quand ils passent leur temps à redescendre chercher des ballons et qu'ils pèsent plus sur la défense. C'est pas nouveau, c'est arrivé 10 000 fois. C'est du Anelka dans le texte, le mec.
En même temps, je pense que c'est le problème de la tactique de Blanc, à savoir que quand tu joues en 4-3-3 et que tu joues sur un jeu de possession, et ben l'attaquant de pointe, il a tendance à décrocher. Alors que tu vois, on n'a pas les joueurs pour jouer comme le Barça. Cavani, c'est pas un joueur qui est de possession. Di Maria, c'est un joueur de contre. Tu vois, c'est un joueur de jeu direct. On l'a vu. On reviendra sur le match de Saint-Etienne. Le mec en première intention, il est bien meilleur. Et contre le Real, pour le jeu de possession, on a galéré parce que les mecs au pressing, bah, c'est autre chose que quand tu vas jouer contre Toulouse ou je sais pas qui. Et quand Marcello il sort sur toi, bah, c'est autre chose que Tabanou, non, il joue plus en Ligue 1. Non, mais bah, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un vrai problème de garder le 4-3-3. Pour moi, parce qu'on n'a pas les joueurs pour. Et les joueurs qu'on a recrutés, ils vont pas forcément en plus dans le sens. Tu vois, Di Maria. Moi, je suis de moins en moins convaincu par ce projet de jeu-là et de me dire, j'adore les joueurs qu'on a, mais pas pour jouer comme ça. Enfin, finalement, j'aimerais bien qu'on joue à la Barcelonaise, le tiki-taka, si vous voulez, ça me fait kiffer. Mais je pense pas qu'on ait les joueurs pour.
Alors, vous avez pas l'impression qu'avec un peu plus d'audace, ça aurait pu passer?
Non. Audace connasse.
Moi, j'ai un truc à dire, mais est-ce que le problème dans le 11, c'est pas Ibrahimovic, quoi? S'il met Cavani en pointe et Pastore sur le côté gauche, c'est réglé, non?
Je crois pas.
Moi, je pense pas.
Je crois pas.
Base, ce match, c'était pas juste pour présenter Cristiano Ronaldo à tous les supporters parisiens, mais je crois que c'était ça. On a vu à peu près, il a fait des petits gris-gris, il a fait des petits passements, il était tout seul, ils ont enlevé les attaquants pour qu'ils soient bien visibles, et comme ça, les agents ont dit, bah, il est pas mal, Cristiano Ronaldo, il vendra des maillots aux petits portugais de Paris.
Ouais. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait briller, Aurier.
Ah ouais.
C'est
tout.
Alors, encore une fois, Aurier est le meilleur parisien.
De loin. De loin, j'étais déçu de Verratti, j'avoue un peu, qui a plus de déchets que d'habitude.
Maxwell est hyper frileux, je trouve qu'il ne peut pas.
J'ai trouvé Maxwell finalement hyper vieux.
On en reviendra sur le match d'après, parce que ça fait un petit moment que les arrières latéraux parisiens sont les hommes du match à chaque fois. Enfin, notamment Aurier, là c'était Kurzawa contre Saint-Etienne qui a fait un excellent match. On y reviendra après, ça c'est certain. Mais voilà, ce match il était un peu décevant, on n'a pas vu l'opposition qu'on voulait voir, avec un Real qui était un peu une équipe B, mais finalement qui a très bien tenu le ballon et qui a très bien joué.
Qui mérite de gagner.
Enfin, ouais, parce après sur le truc de l'équipe B du Real, faut peut-être pas déconner non plus.
C'est leur équipe B. Hein.
Ouais, enfin c'est beaucoup dire quand même.
Sur le papier, c'est l'équipe B.
Sur le papier, quand tu vois les mecs qui étaient blessés, les absents, c'est leur équipe B.
Non mais d'accord, mais c'est l'équipe B du Real, c'est pas
des quoi. Ok, on veut, mais il manque.
Excuse-moi, Vasquez, personne ne sait ce qu'il veut.
Non, mais d'accord,
il manque Rames. Modric, il est diminué, il reprend à peine la compétition. Il manque Gareth Bale, il manque Benzema.
Modric qui est entré.
Il manque Pepe derrière.
Ouais. Non, mais ça commence à faire beaucoup. Je dis pas qu'ils ont l'équipe au complet.
Pepe, il est titulaire maintenant. Varane, pour moi, c'est.
Non, mais Pepe joue quand même assez régulièrement, tu vois. Et là, ils l'ont pas, donc Varane fait tous les matchs, si tu veux. Mais Varane pouvait jouer à droite ou Ramos. Jouer dans le couloir aussi à des moments. Les trois ont déjà été alignés ensemble.
Mais en gros, les Parisiens, ils ont eu un peu. Ils ont trop respecté presque le Real. Est-ce que tu crois que sur un match à élimination directe, ils auraient joué pareil? Moi, je suis pas sûr. Je pense que que ce soit la poule. 0-0, est-ce que c'est un mauvais résultat chez toi?
Mais non, contre le Real, c'est un bon.
Dans une phase de poule, non. Mais moi, je suis pas sûr qu'ils aient trop respecté le Real. Je pense qu'on n'avait pas les moyens de faire mieux sur ce match-là. Faut arrêter de se leurrer, de croire qu'on est meilleur que ça pour l'instant. Tant qu'on jouera comme ça. Alors je sais pas si c'est le problème d'Ibra, hein. Moi je focalise pas sur Ibra, j'ai plutôt l'impression que le schéma de jeu il est pas adapté aux joueurs qu'on a, et que du coup on tourne en rond et on galère un peu là-dessus, et on n'a pas de variété, c'est toujours pareil, en plus on a du mal à passer dans les couloirs, alors, on a vu avec Maxwell qui est pas monté du tout, il y a que Aurier qui a réussi à prendre son couloir. Donc,
Juste pour rappeler, en Ligue des Champions, en poule, c'est une goal average particulier, donc en fait voilà, si on fait un partout, si le PSG fait un partout à Madrid, il finirait premier. A priori premier.
Mm. Mais juste un truc, en fait ils ont pas fait venir Di Maria pour un peu dynamiter le jeu du PSG, vu qu'en fait Di Maria il fait rien depuis le début de la saison. C'est là peut-être aussi il y a un
jeu. En fait, Real, ça n'a pas marché qu'il fasse rien depuis le début de la saison, c'est peut-être pas.
Mais là, en fait, contre le il s'est fait quand même sortir à la 60e Di Maria, il s'est fait sortir direct, donc je me dis, il y a peut-être. Au niveau du schéma tactique, ils ont tenté un truc. Si les joueurs aussi répondent pas présent, ça peut être.
Di Maria, il vient parce que la Vedia gauche est nulle. Clairement. Ouais, à la base, il vient pour jouer à gauche.
Et la Vedia reste parce que c'est le pote de la Vedia de Di Maria.
Et surtout qu'à mon avis, avec son salaire, personne n'en veut. Mais c'est Di Maria, il arrive. Et là, il joue à droite. Et on touche pas au schéma. Et on fout Cavani à gauche. Et on met Ibra dans l'axe qui pèse pas sur une défense parce qu'il passe son temps à décrocher. Je comprends pas, tactiquement c'est zéro.
Je suis d'accord.
Ça sert à rien, te fais pas chier à prendre Di Maria à ce prix-là.
Hein. Ah, encore une fois, je pense que c'est pas son profil. Hein. C'est vraiment un joueur de. Enfin, je me répète, hein, mais un joueur de contre et de jeu direct.
Franchement, tu vois, il était
vraiment fort au Real.
Mais c'est un joueur de jeu direct, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà.
Ouais, il faut prendre Di Mario, il coûte 2 millions d'euros. Il est dispo direct.
Pour moi, ce match, c'était surtout le premier gros test de la saison, parce qu'on avait joué pour l'instant que de la Ligue 1 et que des équipes un peu nazes en Ligue des Champions. Et voilà, c'était la première fois qu'on tombait contre une grosse équipe. On a vu que depuis le début de la saison, on jouait pas très très bien. Et là, on l'a vu contre Real Madrid, qu'on était complètement perdu en attaque. Mm. Donc moi, j'espère sincèrement que c'était un match très frustrant, mais qu'au moins, ça va me permettre de changer un peu la tactique, comme on a pu le voir, j'espère, dimanche contre Saint-Étienne. Mm. Et que ça va justement être un match qui va être très bénéfique pour le PSG, puis ça va permettre de voir ce qui a pas été contre un très gros, qui va nous permettre de progresser toute la saison jusqu'au 8e.
Dans le contenu, c'était pas terrible, mais franchement, 0-0 chez toi contre le Real, ça reste un bon résultat. Le Real, il est resté sur 40 matchs d'affilée en Ligue des Champions où vous avez mis des buts en poule. Mm. Paris restait aussi sur 18 matchs d'affilée où ils avaient mis des buts en Ligue des Champions. Voilà, c'est pas un drame. 0-0, c'est pas une valise. C'est pas comme le match contre Barcelone l'année dernière. Ouais. C'est un bon résultat.
Pas une faillite non plus. Ouais.
Et qu'est-ce que vous avez pensé de Trapp? Parce que du coup, ça a été un peu houleux à des moments, un passement de jambes quand on parlait de Trapp.
Il en avait fait une belle, il faut dire. Non, mais il rassure,
mais il faut encore un peu de temps pour qu'on soit complètement rassuré, peut-être.
Je sais pas. Moi, chez Playground, on dit.
Moi, j'adore aussi. Ouais.
Moi, j'adore.
On est un peu pédé, nous. Ouais.
Non, moi, c'est
gosses sont l'équipe.
C'est pour ça qu'on vous a invité, d'ailleurs.
Non, mais déjà, c'est les gars.
Mais moi, c'est pour ça que je suis content qu'il soit là, parce que tu vois, à chaque fois, je suis tout seul à kiffer sur Trapp et tout.
Pour moi,
ses abdos et tout, sa coupe de vœux.
C'est Bobo en allemand, Trapp. Si Bobo était allemand, ce serait Trapp.
C'est pas ça.
C'est complètement métrosexuel.
Non, mais c'est bien, alors du coup, on a fait
une guerre près, on était pas loin.
On a fait le tour sur la Ligue des Champions. Est-ce qu'il y en a un qui a envie de réagir sur les autres scores, la défaite du Bayern à Arsenal, le 4-4 de la Roma, etc.
Voilà, la défaite du Bayern, je m'en fous un peu dans l'absolu, mais par contre, c'était un super match. Vous savez que le Bayern est perdu.
Bon, ouais, je pense qu'on pourrait quand même un peu tirer notre chapeau à Arsenal qui, pour une fois, fait un beau match.
Qui ne servira à rien.
Je propose qu'on reparle d'Arsenal en décembre.
Oui, non, mais évidemment, d'accord. Non, mais je veux dire, on est assez prompt. Alors, casser du sucre sur le dos et à dire qu'ils jouent comme des merdes, pour une fois, on peut peut-être dire qu'ils sont battus.
Enfin, à relativiser quand tu regardes leurs stats sur ce match-là.
Oui.
30% de tirs, de buts.
Ouais, ouais, bien, je suis d'accord. Ils font pas.
Je pense que c'est un peu chanceux quand même sur l'ensemble du match.
Arsenal, c'est pas la première fois qu'ils battent le Bayern.
C'est vrai.
C'est des équipes qui jouent bien l'une contre l'autre, du coup ça favorise Arsenal et on pourra en reparler sur PSG Saint-Etienne aussi.
On a vu surtout ton petit chouchou Douglas Costa,
encore oulala.
Ah, puisque t'en parles.
C'est un phénomène.
Mais non, bon, j'en ai marre de dire que Douglas Costa est un monstre. Enfin, j'en ai pas marre.
Nous, on en a marre.
Non, mais moi je le kiffe, vivement qu'on l'achète l'année prochaine.
Tu crois déjà, non?
Non, c'est. Je ne crois pas du tout. Je pense que le Bayern, jamais ils le lâchent. Hein. Ils peuvent enterrer Ribéry, c'est bon. Ils ont déjà réservé une maison de retraite, tu vois, en Bavière, tranquille.
Et Boris, t'as pas un petit commentaire sur le but de
Giroud? Arabie Saoudite.
Le but de Giroud.
Je sais pas. Il a marqué comment? De la main, du
son
menton.
Son but des bras. Son but des bras.
Ouais. Bah voilà.
C'est
quoi.
Joli, hein.
Olivier Giroud.
Je savais que ça te ferait plaisir.
Ouais. Je crois que j'ai tweeté là-dessus. Je sais plus ce que j'ai écrit.
Attention, sur Douglas Costa, ça je confirme.
Ah ouais, sur Neuer aussi.
Qui non, mais fait. Globalement, la Ligue des Champions cette année, elle est cool, quoi. Elle est intéressante. Il y a des scores, il y a des buts, il y a des surprises et tout. C'est cool.
Et la Roma qui fait quand même kiffer quand on, quand on prend le temps de la regarder.
Mais ils galèrent pour gagner.
Bon, ils galèrent pour gagner. Mais ils ont un beau maillot. Oh là là. Nous, on est des esthètes. Je crois que vous êtes IPD chez Playground. Vous aimez pas les maillots, je
tous les ans. Ah si, bah si, la Roma, c'est un régal. Ah bah voilà. La couleur de la Suze. On est quand même hyper heureux. Non, non, mais bon.
C'est pour ça que j'ai mis ce show.
C'est une blague. J'entends des mecs dire c'était le plus beau match de l'année.
Ah non.
C'est une Roma.
Ah si, les footix, quand il y a des buts, ils disent que c'est le plus beau match.
Il y a des buts,
c'est ça.
Il y a des buts, il se passe des trucs, une équipe qui mène.
Un but toutes les 10 minutes.
Putain, ça y est, on devient hyper hautain, on parle des footix. Bravo.
Le point Godwin. Le footix, alors on peut en parler.
Vous êtes malade. Je mettais des noms Strasbourg avec.
Avec Patrice Loco.
Avec Patrice Loco et Nouma, voilà.
Avec une très belle interview de Nouma dans le dernier SoFoot, d'ailleurs, je vous la conseille, c'est très marrant. Il est complètement starbé, ce mec-là.
Sort cet homme, pas.
Et alors, justement, Pascal Nouma, on peut en revenir sur la Ligue 1, parce que Pascal Nouma, joueur emblématique de la Ligue 1. Alors, c'est quoi pour vous les bonnes opérations de la journée? Ah bah alors, personne ne dit rien, super.
Montpellier qui sort de la zone rouge, je ne sais pas si on veut vraiment une bonne opération. Là, ce n'est pas une journée où il y a eu des grosses opérations quand même.
Non mais la bonne opération, c'est Paris, le PSG et Lyon.
C'est Paris, la bonne opération. Et puis Marseille qui gagne un match quand même.
Ouais, mais ça, c'est
la, c'est une bonne opération.
Pour moi, ouais, c'est une bonne opération quand même.
L'opération, c'est Lille.
C'est le 16e qui bat le 15e, Lille-Marseille. Tu vois, ça paraît fou comme ça, mais bon.
Là où ils en sont, ils gagnent un match.
Et je trouve qu'ils se ressemblent énormément en plus, Lille et Marseille, au niveau du jeu. C'est quand même assez stérile. Il se passe rien. Et même en revenu avec le 4-2-3-1, moi, je m'attendais à mieux de Marseille. Je pensais qu'ils allaient prendre un peu des repères là-dessus. Cabella qui confirme qu'il n'y arrive pas cette année. Alessandrini qui a enfin mis un beau but avec Marseille en 2 ans. Donc c'est...
On a le droit de dire que c'est un scandale son but. Le mec, il a 18 mètres tout seul, il frappe dans la lunette.
Il est beau. Il
fermé. Bah, d'accord, mais s'il la met à côté, c'est un scandale. Enfin...
Oh bah, tu vois pas comment c'est comme ça.
Le mec
a tenté de retourner, l'a mis au-dessus, ouais, c'est un scandale.
Non, mais attends, il fait quoi les Sandrini à part tenter des trucs comme ça? Alors moi j'adore, ça me fait rire, ça me fait marrer, mais. Mais t'as pas le droit, t'es à 18 mètres, hein, tu prends le ballon.
Écoute, il l'a mis, on va pas le
voir cette fois-là. Tu préfères Cabella qui, à 18 mètres, fait un passement de jambe et se laisse tomber derrière.
Tu diras, ah, je sais pas, le mec a dit.
Je trouve que ça correspond à la mentalité de l'OM, ça me dérange pas trop, mais non, mais il est nul.
Qu'est-ce que t'entends par mentalité de l'OM?
Bonne question.
C'est des restes de Fabrizio Ravanelli, des trucs comme ça. Des trucs que j'ai pas digéré.
C'est ça. Non, mais globalement, on peut revenir sur le jeu un peu de Lille, qui est d'une pauvreté folle. Lille, qui est quand même la 19e attaque de Ligue 1, je crois que les seuls qui ont marqué moins, c'est 3.
Problème,
ils ont mis 6 buts et 3-5. Hein.
C'est que quand tu penses que ton problème, c'est Nolan Roux, et que tu prends un mec encore plus moisi, Jean-Baptiste Guillaume, je crois qu'il s'appelle.
Baptiste
Guillaume.
Tu le fais jouer ailier droit.
Ah non, mais enfin. Et que Bouffal, il pense qu'il est tout seul dans l'équipe, donc ça devient compliqué au bout d'un moment. Alors c'est bien de mettre des buts contre Guingamp, où tu fais tomber le défenseur suédois, donc personne ne connaît le nom. Mais au bout d'un moment, il y a des gars dans ton équipe avec qui tu peux faire des passes, quoi. Enfin, ça devient compliqué. C'est tellement stéréotypé que personne n'a peur d'eux parce que tu te mets sur Bouffal et c'est terminé, quoi.
Ouais, je suis d'accord, mais c'est d'une pauvreté folle. Mais le milieu de terrain est très peu créatif, de toute façon, côté lillois. Hervé Renard, mais finalement, est-ce que c'est pas un entraîneur de coupe?
Ça, c'est pas renouvelé.
C'est un entraîneur de canne. Pas les mecs qui rentrent.
Non, mais regarde, à Sochaux. Sochaux, ils l'ont fait venir pour jouer une Coupe de France de 18 matchs, une demi-saison. Il a failli se sauver. Mais c'est un entraîneur de coup, c'est pas un entraîneur sur le long terme, je pense. Il est pas bon pour ça. Il n'est pas bon, à mon avis, pour stimuler un groupe.
Est-ce qu'il a une équipe pour faire quelque chose?
Moi, je pense pas.
Est-ce qu'il a une équipe qui est capable de faire quoi que ce soit?
Au moins 10e.
Ils ont quel joueur, là?
On parle de Ligue 1.
D'accord,
mais ils ont... À part Enyama, qui est vraiment un top player. Bouffal,
c'est un bon joueur.
Bouffal, c'est comme... Il me fait penser à Zaïri. Le mec, il se dribble tout seul. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi.
Mais il pourrait facilement...
Le Zaïri de Sochaux, c'était pour dribbler dans son salon, il était hyper fort. Un mec qui driblait 8 joueurs au poteau de corner, puis quand il fallait faire une passe, il n'y arrivait pas. Donc, un Bouffal, moi, pour l'instant, il ne me fait pas rêver.
Donc, c'est comme Montpellier la semaine dernière, tu vas nous dire que Lille, à la 16e place, ils sont à leur place, c'est ça?
Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans le jeu, Clément
va nous soutenir.
Non, mais pour moi, il y a une équipe qui vaut celle de Saint-Étienne, par exemple, alors que Saint-Étienne arrive à jouer. C'est des joueurs de Ligue 1, c'est des joueurs qui ont réussi, qui ont montré qu'ils étaient corrects en Ligue 1. Il y a l'ancien de Nice, là, j'ai oublié son
blague.
Non, au milieu de terrain.
C'est vrai, il y a
Balmont.
Non, encore un.
Un autre Denis. Un autre Denis.
Céric, toute la bande, là, c'est pas Céric. Mais
c'est vrai qu'il a synthé.
Mais oui, mais la bande.
En tout cas, il y a des joueurs d'expérience de Ligue 1, il y a des joueurs de ballon, et je trouve qu'ils sont trop bas par rapport au niveau global de leurs joueurs.
Ils n'ont pas des joueurs vieillissants.
Ils n'ont pas des joueurs pour être 16e.
Non, mais Balmont, Mavouba, ça fait une éternité qu'ils sont là.
Mavouba, il est 6, dès qu'il y a un contre, le mec, tu le vois plus sur la télé. Tu sais plus où il est.
Donc, je pense qu'il n'y arrive plus, Mavouba. C'est compliqué.
Non, mais physiquement, il est pas. Le terrain Mavouba-Balmont, il est fini. De toute façon, il faut qu'il change vite.
Ouais, mais ils ont qui d'autre alors? Ils jouent en 4-3-3.
Moi, je pense que Hervé Renard, il y a un problème de méthode aussi. Je pense que c'est pas un entraîneur qui est bon pour un championnat comme ça.
Moi, je suis plutôt d'accord avec ça.
Mais attends, regarde leurs joueurs quand même. Marco Bacha, il était fort il y a 5 ans. Sivelli, il était fort il y a 5 ans.
Enfin, il joue pas Marco Bacha.
Non, mais il est blessé. Ils perdent Simon Kier à l'intersaison, qui était un super défenseur quand même. Berriac est toujours blessé. Ils ont Sidi B à la place. Mais c'est quoi ce gars? Il est nul.
Droitier qui joue à gauche. Ouais. Hein. Donc,
parce qu'il y a personne.
Il a juste raté tous ses centres.
Mais non, mais je suis d'accord, mais ils ont
devant,
pas,
il y a personne. Non, mais c'est qui leur joueur? Pour moi, Boufal, c'est Rayad Boubouz.
non, mais par exemple, dis-moi, moi j'ai vu trois grands blacks, putain, sans déconner, c'est le nouveau Rennes, les mecs qui vont jouer la canne. Non, mais c'est vrai, on les connaît pas. On ne sait pas d'où ils sortent. Non, c'est pas ça.
Ça n'a rien à voir.
Personne ne sait qui sont ces mecs-là et pourquoi, enfin, à quoi ils servent. Voilà. Il y a quand même une action qui est surréaliste au moment où ils marquent. Korchia, il y a l'attaquant, je ne sais pas si vous avez vu, il est dans le but et il me fait un geste de la main comme ça, genre je vais sortir le ballon du but.
Ah
vous
n'avez
pas fait gaffe.
Je ne sais pas qui est ce mec-là en plus. Donc,
voilà. Non, mais déjà, en tout cas, je pense que le match contre Lille pour Marseille, c'était le meilleur moyen de se relancer, non?
Ouais, bah oui.
Bah, ils ont trouvé plus nul qu'eux, c'est sûr que ça aide à se relancer. Non, mais pour moi, c'est à tempérer quand même, parce que la prestation de Marseille est quand même pas terrible, à part la fin de première mi-temps.
Non, je suis d'accord.
Ils ont réussi à enchaîner quelques passes, c'est des mouvements un peu intéressants. Sur le but, il n'est pas hors jeu, mais toutes les semaines on en siffle comme ça des hors jeu, hein, parce qu'il a l'épaule qui dépasse. Mais bon.
Moi j'ai trouvé quand même qu'ils avaient sur le pressing sur ce match-là, ils avaient l'air d'avoir un peu plus
parce qu'il n'y a que la Sanadiara, et la Sanadiara il fait le taf sur le pressing, mais après il ne faut pas lui demander de construire.
Je l'ai trouvé un peu moins seul sur le pressing.
Boris, c'est à la dernière émission, on t'avait interdit de citer la Sanadiara, tu as donc perdu, tu ne seras pas là la semaine prochaine. Tu es exclu, carton rouge.
T'as dit que c'était moi qui ramenais les bières si je disais la Sanadiara.
Non, mais on va conclure rapidement sur Marseille et Lille, c'est pas grave, voilà, c'était un match, Marseille s'est relancé, c'était très bien. Après, je voudrais qu'on vienne un peu sur
le but de Pujol.
Sur le but, alors justement, ça tombe très bien que tu parles
fantastique.
De ça. Je voulais qu'on parle un peu de Nice,
franchement.
Je voulais qu'on parle un peu de Nice, c'est quoi ce Nice qui gagne 4-1 à Rennes la semaine dernière et qui là prend 3 à Ajaccio?
Ajaccio.
Je sais pas. Moi, je pense que.
La menace du peuple corse.
C'est quoi? C'est un problème de motivation?
C'est un trou d'air. Non.
Non, mais là, il faut prendre l'avion.
Le début de la fin, non. C'était à Ajaccio.
Tu te souviens ce qu'on disait la semaine dernière? On s'est dit, Nice, on va voir comment ils réagissent à leur première défaite. Faut voir la semaine prochaine.
Franchement, je sais pas. Moi, ça me choque pas plus. Après, tu sais, ils ouvrent le score. Enfin, pour le coup, Ajaccio ouvre le score sur un but fantastique. Tu vois, ça arrivera pas tous les jours. Et il y a une bonne dynamique qui se met en marche, comme ça arrive dans certains matchs. Je sais pas. Moi, je suis pas plus choqué que ça. Ils sont passés au travers sur celui-là. Ils marquent même contre leur camp. Tout va bien. Enfin, tu vois, dans ce match-là, ils ont fait tout à l'envers. Ça arrive.
Ouais,
après, Pujol met un but. Il me fait un peu comme le but de Drogba là, qui protège le ballon et qui la met dans la lucarne opposée. Qui l'avait fait ça? C'était avec Marseille ou c'était avec Chelsea? Je sais plus, mais enfin, c'est un but.
Non, mais il met un beau but, Pujol. Mais globalement, tu t'attendais à ce que Nice perde 3-1 à Ajaccio?
Non, je m'y attendais pas, mais pour le coup, je m'y attendais pas, mais c'est pas pour autant
que. Non plus, incroyable.
C'est pas pour autant que c'est le début de la fin.
Moi, j'aimerais bien voir la semaine prochaine. Hein. Je sais pas quel est leur match la semaine prochaine, mais on va rigoler.
La semaine dernière, on en parlait, on disait que c'était pas une équipe qui inspirait énormément confiance, qui était hyper solide.
Ils prenaient toujours des buts.
On attendait qu'ils perdent, quoi. Ça y est, c'est arrivé.
Qui prend des buts, après ils n'en ont pas marqué, je pense que c'est plutôt ça le truc.
Ça arrive, attends, Ajaccio, ils gagneront plus un match de la saison, hein, qu'on soit d'accord, non?
Si, peut-être un ou deux contre trois, non?
Ouais, peut-être.
Il y a la double confrontation contre trois.
Mais c'est tout, hein.
Non, mais c'est un accident de parcours. Ouais, ils sont trouvés,
voilà. Ça arrive tout le temps.
C'est quoi, c'est une histoire de motivation?
Non, forme de terrain pourri, c'est un terrain, ça t'arrive, t'as pas touché le ballon, tu prends un
but en 33 secondes.
Tu prends un pion, tu te laisses bouffer par ça, voilà.
Pour être allé à Ajaccio sur le terrain du Gazélec, j'ai fait un déplacement Ajaccio Drancy en Coupe de France il y a 4 ans, je pense. C'est vraiment un terrain moisi. Hein. Parce que faut juste imaginer qu'en fait, le côté où c'est filmé, il n'y a pas de tribune et que la tribune extérieure, c'est une butte. Ouais, voilà, c'est juste pour vous dire ça, c'est un petit kiff. Tu vas au mois de décembre, il fait quand même 3 degrés parce que hein, la Corse, il ne fait pas toujours 25 degrés. Et tu te gèles le cul sur une butte en terre. Voilà. Donc c'est un terrain vraiment moisi et le terrain est pareil.
C'est,
oui, mais c'est ça. Joue pas
sans oui, mais il y a la fierté.
C'est un match de Coupe de France.
C'est un match de Coupe de
France.
Oui, c'est ça. Il faut le jouer comme un match de
Coupe de France.
Et 3 contre Cesari, je crois.
3 qui n'a toujours pas gagné. Non, c'est un jeu Casanova.
Voilà,
c'est ça. 3 qui n'a toujours pas gagné, 3 ils ne gagneront jamais, Benoît.
Moi, ça me dégoûte parce que j'adore Furlan, mais il va redescendre comme tous les ans.
Ils en gagneront un.
Ouais. C'est un bon entraîneur.
C'est un entraîneur qui
peut-être même contre Paris, tu vois.
Tu crois?
C'est toujours tous les ans, Paris perd contre une équipe en bois.
Evian.
Voilà, il en faut un, ce sera peut-être trois.
Il est passé l'année dernière avec 4-2.
Tu verrais pas Angers, toi? Je verrais rien Angers.
Bah écoute, moi je suis pas contre.
Angers, il se débrouille pas trop bien.
Je te tends une perche.
Angers qui est toujours deuxième. Qui est le seul deuxième cette fois-là.
Parce que Reims, ils sont un beau deuxième, et qui avait aussi une butte derrière son stade à l'époque. Il y a peu de temps, Angers avait une butte aussi derrière son stade, et d'ailleurs, il y a le cop de la butte, le KDLB, comme on les appelle, aux amis du KDLB.
Parce que Clément a participé à enlever cette butte avec sa pelle et tout, ils sont venus avec des potes du quartier.
Exactement.
Et alors, justement, on va revenir sur ce fameux match PSG-Saint-Etienne, avec 4-1 score final. Comment vous expliquez que Paris, à chaque fois, ils mettent des valises à Saint-Etienne, alors qu'à Saint-Etienne, c'est pas une équipe de peintres?
C'est une équipe qui fonctionne à l'ego, c'est une équipe qui plie à chaque fois, ça doit les faire marrer, de leur marcher dessus à chaque fois, et du coup, ils sont hyper motivés. Mais moi, je vois que ça, c'est pas possible.
Non, mais c'est fou, hein, ce truc. C'est que Paris, parfois, manque d'efficacité, arrive pas à mener 2-3-0, et contre Saint-Etienne, c'est systématique.
Ah ouais, mais Ibra, il a la goal, il voit Ruffy, il voit ça, il se dit, oh putain, tu vois,
mais quand t'es face à un beau public et les meilleurs supporters, tu te dois de mettre une valise.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est quoi, c'est le 12e but de Zlatan contre Ruffy, c'est le gardien à qui il a le plus marqué. Alors justement, on peut revenir sur ce truc-là. J'avais vu un article il n'y a pas longtemps. Est-ce que Ruffy est le meilleur gardien de France?
Ah bah là, sur ce match-là.
Moi, je pense qu'il a la meilleure gueule. Il a la meilleure gueule des gardiens de France.
C'est la paix. Kevin Trapp, pareil.
C'est le non, non c'est le putain, il a, c'est le Pascal brutal.
C'est le plus beau flic de France, ouais.
C'est ça, c'est le plus beau flic de France. C'est le gendarme.
Premier flic de France, Ruffy.
Et moi, je me demande si je suis pas pédé. J'ai un petit faible pour Costil et le Comte.
Ok, donc dans l'ordre, ils sont vraiment pédés.
Mais ils se ressemblent tous en fait.
Les meilleurs gardiens de Ligue 1. Dans les meilleurs gardiens de Ligue 1, pour moi je sais pas, je vois pas.
Attends. Premier but accordé avec la Gold Line Technologies ce week-end, justement sur le compte qui se loupe et qui va chercher un ballon.
Galtier avant le match avait quand même annoncé que Ruffy avait le niveau pour jouer au PSG, il a prouvé que non.
Mais Ruffy, il a même pas été appelé en équipe de France la dernière fois.
Il refuse la troisième, le troisième. Le troisième gardien.
Voilà. J'avais toujours
compris qu'il ne venait pas.
Qu'il était un peu con, Ruffier. Mais
je pense pas. Alors après, je lisais une interview de Charbonnier dans SoFoot sur le site de SoFoot aujourd'hui là, qui disait que peut-être que ça l'intéresse tout simplement pas d'être troisième gardien et que être appelé sur les trêves internationales pour pas jouer, pour même pas être numéro 2. Surtout quand t'as 30 piges. Je comprends pas
parce que ça signifie que tu te considères meilleur que les autres.
Non,
mais c'est pour jouer.
Non, il est pas appelé pour jouer, il est appelé pour faire le sparring, partner.
J'arrive pas
à dire ce mot. Du numéro 2 en plus. Il est là, c'est un mec de vestiaire, il va faire que. Et puis aussi, il a pas l'air très marrant, quoi. Le mec à part manger des chewing-gums. Tu vois, c'est pas Charbonnier, il a l'air plus délire, quoi. Donc,
non, mais à chaque fois,
il roulait les joints de lama, peut-être, je sais pas ce qu'il
disait. Mais non, mais je cite toujours, mais il y a un proverbe africain qui dit prends argent, tu vois. Donc, Ruffier, on lui propose un truc, il prend quoi. On lui prend, c'est tout, tu réfléchis pas, tu prends. Mais s'il respecte pas ce genre d'adage, il ira pas.
Il ira jamais plus
loin.
C'est la dernière fois que Bastien était mangé à Belleville, il a pris ça.
Non, alors justement, j'aimerais bien juste revenir sur le jeu du PSG, puisque globalement, c'est la même équipe que contre le Real à un ou deux joueurs près. Et ça n'avait rien à voir.
C'est pas la même équipe. Tactiquement, c'est pas du tout la même équipe.
Moi, j'ai deux théories.
Sawa qui a remplacé.
J'ai deux théories. La première théorie, c'est que Saint-Etienne, c'est une des rares équipes qui joue le jeu contre le PSG. Ils ferment pas aussi parce que ils jouent pas à 10 derrière dès le début. Ils essayent,
ils ferment pas, mais ils jouent pas vers l'avant. C'était pauvre.
C'est pauvre parce qu'ils ont pas le niveau. Mais en même temps, ils tentent. Après, le PSG marque à la 30e, 40e.
Il y a un 0 à la mi-temps.
Ouais, mais c'est à 40e minute, ça a mis du temps à se dessiner. Donc ils ont quand même, ils n'ont pas eu d'occasion franche. Saint-Etienne, mis à part la frappe des séries qui passe pas très loin. Bon après, sinon c'est assez pauvre, mais ils ont le mérite d'essayer. Et je pense que le PSG, du coup, quand ils ont une équipe qui joue et qu'il y a de la place, c'est plus facile aussi que jouer à 10, enfin que jouer contre des équipes qui jouent à 10 derrière. Après, le deuxième truc, je pense, c'est que tactiquement, on a pas joué en 4-3-3. Mmh. On a joué en 4-4-2. Ouais. Enfin, on a vraiment, et ça se voit sur les deux buts de Cavani et d'Ibra, les mecs se font des passes. Bah, ouais, quand tu joues sur la même ligne. Mais on a vu Ibra faire des appels en profondeur quand même, hein, pour un mec qui est vieux, qui sait pas courir et qui fait que décrocher. Il montre qu'il sait faire autre chose. Et est-ce que c'est
il
pas le
champ?
Non, mais.
C'est encore plus énervant.
Mais non, mais alors, tu vois, d'où, moi, ça renforce un peu, par mon hypothèse du fait de quand Ibra joue
au foot.
Non, quand il joue à deux pointes, il peut jouer autrement. Dans le 4-3-3, il décroche parce que on est sur un jeu de possession. Là, il y a eu beaucoup plus de jeux en une touche de balle. Le but de Ibra, justement, c'est une passe de Di Maria en première intention pour Cavani en la profondeur qui la remet à Ibra. Et là, ça joue presque à une touche de balle, tu vois. Donc, ouais, on est sur complètement autre chose. Ouais, on a eu des phases de possession où le jeu est orienté sur des phases à une touche de balle où ça arrive à Vanderville où le mec se retrouve tout seul dans le couloir parce que ça a joué vite. Mais c'est dû aussi au fait qu'il y avait de l'espace. Bah et oui. Au fait que Di Maria jouait derrière les attaquants et s'est baladé. On pourrait imaginer que Pastore le fait aussi. Mais, ou alors Di Maria, il a pris le loisir de le faire comme ça, alors que c'était pas les consignes de Blanc, j'en sais rien. Mais là, on a joué en 4-4-2. Enfin, tu vois, pour le coup, on a joué en losange.
Sur papier, c'était un 4-3-3.
Ouais, mais on a joué en losange.
Mais je pense que c'est comme ça qu'il faudrait jouer. Mais je pense qu'on a vu Ibra dans un vrai rôle d'attaquant.
Bah, je pense qu'il se fait plus kiffer quand il joue comme ça. Mais bon,
moi j'ai pas l'impression.
Il le fait pas tout le temps parce que Di Maria, quand il est collé à la ligne, Quand Di Maria est collé à la ligne, il fait comment alors?
Pourquoi il décroche tout le temps?
Parce que Di Maria, il est collé à la ligne.
Non, moi je pense que Zlatan a plus d'influence sur le jeu que Di Maria, et je pense que c'est plutôt quand Zlatan décroche que le PSG déjoue. En
fait. Mais c'est ça. Personne ne sait où se foutre.
Il n'y a personne devant.
Mais du coup, c'est à Blanc de lui dire de rester devant.
Mais tu fermes ton. De lui dire de rester sur le banc, t'as dit non?
De lui dire de rester devant. Et je le redis. Moi, à la limite, j'aimerais que ça soit Matuidi qu'on essaye Matuidi sur le banc. Et Pastore en 10, voire Di Maria en 8, ou inversement, tu vois. Pastore en 8 et Di Maria en 10.
Ah, Di Maria gagne la Ligue des Champions avec le Real, il joue 8.
Ouais, mais c'est pour ça.
C'est là où il est le plus fort.
Enfin, bah, moi, je trouve aussi. Après, tous les entraîneurs qui l'ont eu, ils disent ouais, les meilleurs sur un côté. Moi, je trouve pas. Après, je sais pas, je suis pas entraîneur. Peut-être que je le vois pas à l'entraînement, que j'en sais rien. Mais moi, c'est pas flagrant.
Plusieurs fois hier, on a vu en début de match, en tout cas, que Ibra jouait pas trop devant et que quand il descendait. C'était Angel Di Maria justement qui allait se mettre en pointe avec Cavani, et ça a changé comme ça plusieurs fois pendant le match. Plusieurs fois Ibra, je sais pas s'il a senti que le jeu se passait loin en profondeur, il est allé de lui-même, et du coup Di Maria, je sais pas si c'est lui qui s'est adapté, si c'est Laurent Blanc qui a donné cette consigne, j'espère, mais en tout cas j'ai vu un 4-4-2 qui a été interchangeable entre Di Maria et Ibra en numéro 10, et c'était vraiment
ils ont vraiment cherché la profondeur parce qu'il y a eu beaucoup de hors-jeu, beaucoup de machins, ils ont vraiment tenté d'aller dans la profondeur.
Et Zlatan qui fait 3 sprints, je crois qu'on l'a pas vu depuis un moment, tu vois. Mais après moi j'ai tendance à dire que c'est le schéma de jeu qui veut ça, mais bon, après c'est que ça reste que mon avis, hein.
Au-delà de décrocher, faut dire un autre truc, c'est qu'en plus de décrocher tout le temps, Ibra perd tous ses ballons quand il décroche, et ça c'est juste insupportable parce qu'il
ralentit
le jeu, les mecs qui partent, hop, t'élimines tout le monde, la défense est haute parce qu'il pèse pas sur la défense, et il perd
parce qu'il est plus capable parce qu'il a plus le physique pour démarrer. Ouais, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je sais pas pourquoi il décroche. Je préfère quand il est devant, à la limite, qu'il fasse des appels en profondeur et qu'il joue en première intention. Ce qu'il a fait, il donne deux ballons à Cavani. Normalement, Cavani doit mettre un doublé hier.
Ruffier fait un bel arrêt. Et le deuxième,
même un triple. Presque même trois. Tu vois, il lui fait trois passes D. Il en met, il met qu'un seul but. Oui, il tombe par terre. Il avait décidé que c'était. C'était trop de passes décisives.
Non, mais globalement, on a vu le pari qu'on aurait aimé voir contre le Real. Quoi. Ils ont joué de la manière dont on
aurait... C'est du match contre le Real.
Et j'aimerais souligner aussi la prestation de Kurzawa, qui a quand même fait un super match.
Ouais, ouais.
Vraiment. Il a vraiment été bon. Il est bien monté, il a mis son but, il est motivé, il a l'air chaud. Et,
bien monté, plaisir. Ouais. T'as vu les images, toi, dans le match.
Je vais peut-être rejoindre l'équipe de Playground bientôt.
On t'invite.
C'est gentil.
C'était le mot de passe.
Le mot de passe, c'était bien monté. Super. Alors, du coup, au championnat de France, on va s'arrêter là. Prochaine journée, Rennes-PSG, on va voir s'il confirme. Et puis voilà, on en reparlera lundi prochain. Boris, tu voulais qu'on parle un peu du championnat anglais. Il y a eu le derby de Manchester, ce qui va nous permettre de faire le point martial. Boris, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match?
Voilà, merci Boris.
j'ai fait un silence à la hauteur du match. Quoi. C'était, je sais pas, moi je me suis endormi en fait à un moment. C'était dimanche, 15h.
Ta petite meuf, tranquille.
Voilà, tout ça. Je m'étais
mis
vraiment yimbe. en regardant, en lisant des BD de Bastien Vivès.
Et en allant au Comic-Con.
Voilà. Non, mais c'était quand même à chier. Hein. Je sais pas ce que, enfin, si vous l'avez vu ou pas.
Là, je les appelle à mi-temps. Ah là, je crois que j'ai fini sur Reims Monaco.
Oula.
Non, mais c'est moi.
Je les appelle à mi-temps.
C'est là où quand même tu te dis que les Anglais sont vraiment forts pour vendre leur championnat. Je sais pas combien de milliards aux Asiatiques.
Le plus gros choc de la saison.
Et tu te dis qu'il y a quand même 2 milliards de personnes en Asie qui se sont levées pour voir ce match, qui se sont pas couchées en tout cas. Et les mecs, ils continuent à lâcher je sais pas combien d'oseilles pour payer ce championnat moisi. Enfin bon, je sais pas. Moi je trouve que je comprends pas. Je m'étais un peu calmé sur le championnat d'Angleterre, mais là, quand je vois ce match, c'est un foutage de gueule. Enfin, ils sont pas au niveau, les gars. Il y a soi-disant les meilleurs joueurs du monde. Par contre, il faudrait peut-être qu'ils achètent les meilleurs entraîneurs, parce que ça devient compliqué.
Enfin, non, c'est une bonne réflexion. Mais après, City fait quand même la bonne opération, parce qu'un match de
la bien sûr.
United, c'est un bon score. Et puis, on voit que City, quand il n'y a pas Agüero, c'est moins sexy, quoi.
Ouais.
Quand c'est Wilfried Bony qui est devant, ça pique un peu. Ouais. Avec un Raheem Sterling assez faible aussi.
Mais je trouve qu'ils ont été quand même au niveau de leur match de Ligue des Champions. Tu vois, ils gagnent à l'arrache à la 94e. C'est le même genre de match. Hein. Ils auraient dû faire match nul en Ligue des Champions. Là, ils font match nul. United, ils sont premiers, mais à défaut de la concurrence, tu vois.
C'est City qui est
premier. Ils étaient premiers à défaut de la concurrence. Et là, c'est pas. Enfin, je sais pas, je trouve que ça se vaut. C'est.
Peut-être arrêter d'être surpris des résultats des clubs anglais en Ligue des Champions.
Ah, moi je suis pas surpris.
C'est une faiblesse.
Mais on l'est plus.
Je crois qu'avec Martin, dès la première émission de Passement de Jambes, on avait fait un peu des pronos sur la Ligue des Champions en se disant que de toute manière, nous, moi ça fait longtemps que j'y crois plus parce que c'est pas étonnant, ça joue très mal.
Ouais. Mais ils jouent pour eux, ils jouent en vase clos, de toute façon ça va finir en Ligue fermée, en Ligue des Champions, ils iront bazarder.
Ça ne les intéresse pas. La Ligue des Champions ne les intéresse pas. Les mecs sont là pour faire de l'oseille en première ligue. Voilà ce qui les intéresse. Voilà ce qu'on vend. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça décevant. Écoute,
Quand on entend des supporters à l'Arsenal qui appellent l'entraîneur à laisser tomber la Ligue des Champions et à jouer tout sur la première ligue, on est où qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu joues la Ligue des Champions. Si tu as la chance d'y être, tu joues tous les matchs à fond, même si mathématiquement t'es sorti, tu la joues quand même. Quoi.
Je suis content que tu parles des supporters d'Arsenal. On va saluer aussi le but de Koscielny et Giroud ce week-end, qui ont mis deux buts. Koscielny et Giroud qu'on...
Comment quoi, tout est possible.
Qu'on porte pas dans notre cœur ici, dans l'émission, on passe par Jordan.
Ah, Benoît, réaction sur Koscielny. Jordan Ayew aussi l'a planté, c'est nul.
Et André Ayew aussi, dans le même match, ils ont planté chacun pour leur équipe. André Ayew, il est fort.
Et après, vous pensez pas que, parce qu'il y a de plus en plus de Français dans les clubs anglais, c'est pour ça que ça a amené ça a fait tomber le championnat. Non, il n'y a pas une.
Et surtout,
est-ce qu'on leur a pas amené un peu de notre Ligue 1 des années 90?
Mais attends, surtout qu'il est surpayé en plus.
En plus,
il est surpayé.
Au contraire, je pense pas. Un mec comme Payet, justement, ça tombe bien. On va pouvoir parler du match de Chelsea. Payet est quand même un des meilleurs joueurs du championnat depuis le début, il me semble. Hein.
Ouais. C'est vrai. Il se rend compte qu'il va peut-être, sur un malentendu, réussir à jouer à Manchester United. Donc,
mais comme on tous fait, comme Loïc Rémy.
Comme Loïc Rémy, c'est la même trajectoire.
Bien sûr. Mais c'est ce qu'on disait d'ailleurs au tout début dans les émissions, Benoît, c'est que ces mecs-là faisaient des petits clubs pour faire un tremplin sur un plus grand. Et je pense qu'André Ayew aussi finir dans un plus grand club.
Oui, c'est sûr.
Et donc Chelsea, Boris, tu voulais qu'on en parle un peu, tu voulais qu'on échange sur Mourinho, sur voilà.
Ouais, moi je trouve ça assez assez fou quand même de voir dans quelle situation se trouve quand même José Mourinho qui était il y a 2 ans de ça, autoproclamé ou nommé, j'en sais rien, pour entraîneur de l'année, meilleur entraîneur du monde, le special one,
happy
tu vois.
One quand il est revenu à Chelsea.
Il était tellement content d'être revenu à Chelsea. Alors je me dis, est-ce qu'un entraîneur comme Mourinho, ça peut se virer? C'est ça la question que je me posais, c'est est-ce qu'on le vire au mois de novembre?
Non, simplement, juste pour revenir, il y a 2 ou 3 émissions, on avait évoqué la fin de la méthode Mourinho. On avait dit, est-ce que c'est une méthode qui va marcher encore? Aujourd'hui, on a l'air de voir que c'est pas le cas.
On pense toujours que ça n'est pas le cas. Mais est-ce qu'un entraîneur comme Mourinho, on peut le virer?
Alors, il y a 2 choses aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut virer un entraîneur comme Mourinho? À mon avis, c'est compliqué. Et est-ce qu'on peut virer Mourinho à Chelsea? Parce qu'ils ont un historique. C'est, à mon avis, c'est encore 2 choses différentes.
Est-ce qu'on peut le virer tout court? Je sais pas. Mais de Chelsea, je pense que c'est indispensable. Ce mec-là, il fait à la tête des joueurs ce que Bielsa fait à leur corps. Il en tire le meilleur pendant quelques années. Et après, les mecs, psychologiquement, ils sont foutus. Ils sont claqués. Tu vois comment joue Hazard. Il y a quelque chose. Enfin, psychologiquement, ils y sont plus. Je pense qu'il est à force de.
Donc, toi, ta théorie, c'est que l'année dernière, il aurait trop tiré. Ouais. Et du coup, les mecs relâchent un peu.
Je suis persuadé. Moi, je pense que leur défaite contre Paris, ça leur a fait hyper mal. Et ils étaient tellement en avance dans le championnat anglais que de toute façon, ils l'ont emporté haut la main, qu'il n'y avait pas de souci.
Ouais, l'année dernière, ils ont gagné facilement.
Mais depuis la défaite contre Paris, enfin depuis qu'ils se sont fait sortir par Paris, je trouve que ça se délite un peu. Et je pense que Mourinho ne sait pas faire face à ce genre de choses.
Ça, c'est un supporter de Paris, ça.
Et puis les.
Ah non, je parle objectivement.
Et puis l'effectif. Non, et puis l'effectif.
C'est à cause de nous qu'on a défoncé tout le championnat anglais.
Non, et puis l'effectif qui est resté le même. Hein. Enfin, les mecs, ils ont finalement recruté personne à l'intersaison.
Radamel, non ?
C'est ce que j'ai dit, ils ont recruté personne. Ouais, mais et Papi Gilogoji. Non mais... Bon, bref, non, on reviendra pas là-dessus. Ouais, non, c'est
on
pas...
va pas revenir là-dessus.
Mais quand t'as un collectif qui commence à... Où tu tires un peu sur la corde, où tu sens quand même... Dans le jeu, c'était pas ça l'année dernière, Chelsea. Ouais. Les mecs, ils se font maîtriser à 10 contre 11 chez eux en quart de finale... En huitième de finale de Ligue des Champions. J'étais perdu. Non, on n'a pas joué de demi encore. C'est quand même symptomatique de la faiblesse du jeu de Chelsea, au moins l'an dernier. Et ça se confirme cette année. Et l'année dernière, ils arrivaient à avoir des résultats un peu à l'arrache où Hazard les sauvait. Bon, Hazard, il est peut-être déjà au Real Madrid, ou au Barça, ou je sais pas où il est. Mais en tout cas, il est plus là-bas.
Dans l'état d'esprit, moi, je les trouve dégueulasses. Enfin, ce qu'on reproche souvent aux équipes de Mourinho, mais les mecs, c'est une bande de casseurs. Ils craquent sur dès qu'ils perdent un ballon, ils y vont les deux pieds.
Les deux jeunes équipes hyper vieillissantes, Ivanovic,
Diego Costa, c'est le grand Dao.
Diego Costa, il a pris 20 kilos. Hein.
Oui, non, mais d'accord. Mais
tu vois les photos de l'année dernière et cette année, c'est hallucinant. Il avance plus.
C'est un joueur estampillé Mourinho. C'est tout ce qui me fait moi un peu gerber. Ah
oui,
Mourinho, t'as quand même un mec comme Hazard dans ton effectif. Il a la couille de te dire, je le mets dehors parce qu'il défend pas assez. Attends.
Mais personne ne crée derrière.
Non mais dans quel film tu prends Hazard pour le faire défendre ok, laisse-moi.
Mourinho, c'est l'entraîneur qui veut montrer son autorité en mettant des mecs sur le banc. Il a fait ça avec Casillas, il a fait ça avec d'autres joueurs. C'est juste sa méthode. Exactement. Et je pense que sa méthode, elle ne marchera plus.
Mais comment tu fais pour laisser Diego Costa sur le terrain alors que le mec a pris 15 kilos Non mais c'est hallucinant quand même. Le mec n'avance plus.
Il joue mal surtout.
Non, mais au-delà de ça, moi j'ai jamais été un grand fan de Diego. Les mecs qui mettent les attaquants qui mettent des coups de coude et qui marquent. Enfin moi ça me fait pas kiffer. Après mais quand tu vois sa condition physique, on a fait des procès à André Pierre Gignac pour moins que ça, tu vois. Donc le mec a quand même 15 kilos de trop. Mais c'est hallucinant. Je vous invite à aller regarder des photos de 2014-2015, c'est hallucinant.
C'est... Même il y a des mecs comme Matic qui a pris un rouge hier et qui s'emporte. En fait, il y a de la tension entre eux dans le terrain, c'est horrible.
Ouais, mais c'est palpable. Psychologiquement, il les a tirés trop loin.
Je pense que
maintenant, ils font venir Cuadrado, au bout de 6 mois, ils le tègent. Enfin,
c'est ça, il faut qu'ils s'en aillent.
Pedro, il a combien de minutes de jeu parce qu'il a
C'est fou aussi, ouais.
Mais est-ce qu'on n'est pas content de tout ça en fait?
Bah si,
on est tous contents parce qu'on déteste ce
coup. Moi, c'est un club que je déteste.
Et je pense que les joueurs, c'est pareil, à mon avis, les joueurs, ça les saoule, ils ont été champions.
Ils ont lâché.
C'est bien, mais là, ils l'ont lâché parce qu'ils s'emmerdent. Hazard, c'est un mec, même à Lille, il arrivait à jouer. Donc j'imagine que là, Chelsea, tu veux s'amuser.
Tu penses qu'il va venir au PSG l'année prochaine?
J'espère pas en tout cas. Je rends ma licence, je pense.
Non.
Moi, je crois que je déchire l'équipe tous les jours.
Voilà, je pense qu'ils pendant 2 ans et puis après.
Non, je pense qu'ils seraient pas même pendant 2 ans. En fait, tout ce qu'on déteste, c'est vraiment pas le foot qu'on aime.
Ah non, après, ce serait pas beau. Je dis pas le contraire, mais je pense que quand même, on peut pas dire que c'est un entraîneur pourri. Je pense que quand il arrive dans un club, il peut y faire des choses, mais qu'après, il laisse des traces.
On va ouvrir on va bientôt conclure l'émission. On va faire le loto Mourinho. À ton avis, il se fait virer quand, Clément?
À la fin de la saison.
Fin de la saison, tu crois qu'il va rester jusqu'au bout?
Ouais, je pense, ouais.
Boris?
J'aurais dit la fin de la saison, parce que je vois mal, en fait, Chelsea le Tej. C'est arrivé qu'une fois avec un autre Portugais, avec Villas-Boas. Et ça arrive encore Non, il finit pas la saison, je sais pas, en décembre.
En décembre.
Villas-Boas, il avait tenu quand même jusqu'au printemps, en février, je crois. Et Di Matteo l'avait remplacé.
Nul, ouais.
Et Di Matteo avait gagné la Ligue des Champions, du coup.
Et toi, Bastoun, alors, t'as une petite idée? Tu crois qu'il va finir la saison?
Moi, je pense que dès que Laurent Blanc se sera fait têche du PSG, Mourinho va y aller. Et, et ça va être génial. Voilà.
Ça va être horrible. Moi, je pense qu'il finira la saison et je pense même qu'il pourra faire une année de plus. Parce qu'à mon avis, il y a des liens avec Abramovich qui sont un peu autres que voilà, il a quand même
fait
grandir l'équipe et voilà.
Je pense aussi qu'il finira la saison parce qu'il faut quelqu'un de gros calibre au moins médiatiquement pour le remplacer à Chelsea.
Il y a Ancelotti qui est sur le marché.
Ouais, moi je pense qu'il a un peu de couilles et il se casse tout seul. En février.
Possible.
Et tu sais, il se casse tout seul parce que de toute façon, Chelsea, le foot dehors, ils prennent qui ?
Ah non, mais c'est ça. Ah, ouais.
Ils prennent qui aujourd'hui qui est dispo ?
Ouais, moi je verrais pas en
Chelsea. Furlan.
Jean-Marc Furlan.
Olivier Girard, si ça se trouve,
Pierre Fournier.
Juste pour montrer ses couilles, il va dire je me casse, genre comme si j'étais un grand prince.
Il y a Zidane.
Ils le foutront jamais dehors. Effectivement, Abramovic, à mon avis, il y a des trucs.
Et je vois pas Guardiola à Chelsea, tu vois, passer derrière Mourinho.
Dans quel film Guardiola partirait du Bayern à part
Non, mais je pense que l'année prochaine ils en veulent plus. Par
ouais, contre, c'est possible. Mais donc du coup, ça reste fin de saison. Enfin.
Mais Guardiola, il finira à City, il va remplacer Pellegrini, non ?
C'est sûr.
Pellegrini, il est hors d'âge là.
Il y a moyen. Sauf dans mes rêves, il vient au PSG. Mais ça c'est.
Ah. Ouais. Prenons une chose. Ouais. Bon bah voilà, on a fait un tour un peu complet. On a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Pas de mauvaise blague de Clément. du coup, voilà, ça a duré plus longtemps parce que Playground était là, on était plus nombreux.
Ils sont hyper endurants.
J'espère que ça a été assez clair et qu'on s'est tous laissé parler, que c'était une bonne émission.
Moi, je dirais que c'était une bonne émission.
T'as trouvé que c'était une bonne émission, Bastien ? On est content. Alors, si Bastien a trouvé que c'était une bonne émission, on est tous contents. Et vous, Playground, ça vous a plu ?
Ouais. Nous, on reviendra si on est invité un jour.
Ah, avec plaisir, ouais.
Ça, c'est un
Clément m'a touché la cuisse pendant toute l'émission. Je pense que je vais la réinviter, moi. Il m'a bien fait kiffer.
Bon bah merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour le 10e épisode.
Wow,
ça passe super. Vite. Hein.
Putain.
À quand à hors série ?
À quand à hors série ?
Ouh là là, ça tease un peu.
On va essayer de réserver ça pour la trêve.
Et donc pour le 10e, on prend que on sera 10 ou comment ça se passe ?
Pour
parce
le
que
10e,
là que des numéros 10.
On va essayer de recruter encore pour la semaine prochaine.
Chombière, vous l'avez jamais vu jouer au 5, mais Benoît Berchon, ici présent, il met que des caviars. Hein. Un numéro 10 à l'ancienne.
Thiago Motta.
Hein. Mec, qui joue tête haute. On vous invite au 5 de la Chapelle.
Je propose qu'on fasse une émission spéciale sur le jeu de Benoît Berchon dans le 5.
J'y suis allé une fois dans ma vie.
Il était meilleur au 5 d'Aubervilliers, je crois.
Bon, allez. Salut à tous et à la semaine prochaine.
Salut, salut à tous.
Ciao. On n'a pas fait passementjoom.fr. Cool, ça dirait combien?